J'ai envie d'aider, même si c'est périodiquement, mais par la danse, essayer de, voilà, de donner la parole à des gens qu'on fait trop souvent taire, en fait.
Aujourd'hui, je vous invite à rencontrer Nawal, danseuse, chorégraphe et responsable pédagogique de la compagnie La Baraka. Bien au-delà d'être son métier, la danse est pour elle une véritable ligne directrice l'obligeant à avancer, lui permettant ainsi de traverser de nombreuses épreuves. En parallèle des ballets dans lesquels elle se produit, Nawal mène de nombreux projets ayant pour valeur centrale la transmission. Dans cet épisode, elle vous parle de son enfance entre le Maroc et la France, de la façon dont elle s'est construite en tant que femme et danseuse en étant trop tôt orpheline, de sa rencontre avec un danseur et chorégraphe, lui aussi, qui deviendra son partenaire à la vie comme à la scène, et de la façon dont, malgré eux, Nawal est souvent placée dans son ombre, de ce que cela implique et comment elle combat cette injustice. Des projets qu'elle a construits dans le but d'aider et d'accompagner ceux et celles à qui l'on ne tend pas assez la main ou que l'on met de côté pour leurs différences. Enfin, elle vous parlera des changements qu'opère sa nouvelle vie en province, à Annonay en Ardèche, après Paris puis Lyon.
Je suis née à Safi, au Maroc, c'est sur la côte atlantique, c'est au-dessus des Essaouira. D'une mère française qui est d'origine aveyronnaise et mon père est berbère du Maroc. J'ai eu une enfance merveilleuse, une mère très disponible parce qu'elle travaillait pas, un papa qui avait du boulot dans tout ce qui était import-export. J'ai grandi sous un ciel bleu, avec les odeurs du Maroc. C'est des souvenirs impérissables. Vers l'âge de 8 ans, j'ai quitté le Maroc parce que l'argent commençait à manquer. Mes frères devaient faire des études secondaires. Mes parents ont quitté le Maroc avec beaucoup de regrets. Et puis une fois arrivé en France, on est allé du côté de la famille de ma mère, donc en Aveyron, à Millau. Bon, comment dire, je connaissais déjà parce que j'y venais tout le temps en vacances. J'ai pas vraiment compris qu'on allait continuer à vivre ici. Et puis les choses se sont un peu compliquées avec mon père qui trouvait rarement du travail, voire très peu. L'argent s'est raréfié et les problèmes ont commencé. Quand j'ai rencontré la danse, donc vers l'âge de 11 ans, je crois que c'est ce qui m'a permis, aider à vivre. Je pense que c'est vers cet âge-là que j'ai eu une espèce d'incompréhension, de douleur du fait qu'on soit parti. Et du coup, j'avais une instabilité affective, on va dire, qui faisait que la vie n'était pas simple pour moi, quoi. Du coup, c'est ma grand-mère qui m'a payé ma première année de danse parce qu'en me disant, il ne faut pas qu'elle reste comme ça à rien faire. Et puis après, voilà, j'ai rencontré cette prof de danse qui a vu que j'avais quelque chose sûrement et qui m'a permis parfois d'accéder gratuitement à des cours parce qu'on n'avait pas du tout les moyens. Ça coûtait hyper cher, je m'en rappelle. C'était donc peut-être en 95-16. Ma première année, j'avais 9 heures de danse par semaine et c'était 360 francs par mois. Cette discipline m'a permis de retrouver des rails, en fait, dans la vie. Sinon, je perdais confiance un petit peu en tout. Donc, d'un point de vue personnel, à l'adolescence, c'est vraiment la seule chose qui me construisait. C'est la seule autorité. La discipline de l'autorité que j'acceptais, les autres formes d'autorité me passaient vraiment au-dessus de la tête. Ça m'a appris le respect de mon corps, de communiquer aussi, dépasser mes limites, à pas rester sur une seule image, d'aller toujours un petit peu plus loin, de gratter plus loin. Puis je m'aperçois qu'il y a encore plein de choses à développer et que je connais pas encore. Et voilà. Donc, mais c'est le centre de ma vie, c'est ma colonne vertébrale, quoi.
Nawal a entamé sa carrière il y a plus de 20 ans. Elle fait ses premiers pas dans le classique, puis s'ouvre à d'autres styles tels que le contemporain et le jazz. Dans les années 2000, elle participe aux créations du Armstrong Jazz Ballet, collabore avec de nombreux chorégraphes, puis part en tournée mondiale avec le DJ Laurent Garnier. Elle se produit dans plusieurs pièces, dont Cyrano de Bergerac, mise en scène par Jacques Weber. En 2005, elle se forme au yoga et obtient, aussi, le diplôme d'état de professeur de danse. Mais alors pourquoi a-t-elle choisi d'enrichir son parcours d'expériences aussi différentes ?
J'aime l'expression, ce plusieurs formes. Donc, sachant d'où je venais, j'avais besoin de voir aussi s'il y avait pas des choses que j'avais pas développées assez. Du coup, je me fermais pas. Et puis, bon, faut dire que quand on est à Paris et quand on a 19 ans, on cherche un peu toutes les opportunités pour travailler. Donc, j'ai cherché tout ce que j'ai pu. Il y a des choses que je savais que je voulais pas faire, notamment les comédies musicales ou tout ce qui était trop commercial. Parce que ça me correspondait pas. J'avais besoin de retrouver aussi une certaine éthique dans le travail. Enfin, j'avais quand même certaines valeurs déjà qui m'avaient été transmises. Et du coup, la musique électronique, j'ai toujours adoré. Laurent Garnier. Donc voilà, quand j'ai été prise, j'ai été très étonnée. À 20 ans, j'ai fait le tour du monde. Je suis allée. Enfin, oui, on a Reykjavik. Enfin, on a fait le tour du monde. Le théâtre, parce que j'adore le théâtre. Donc, du coup, pareil, quand j'ai été prise sur cette audition, j'ai été ravie parce que bon, j'avais trois mots à dire aussi en plus de danser, mais ça reste une expérience extraordinaire avec des comédiens du CNSM de Paris qui maintenant sont très connus. Il y a Xavier Gallet, il y a Marina Hans. J'avais envie de m'enrichir de d'autres domaines aussi, mais qui font aussi pour moi partie de pas de la danse, mais de l'expression, quoi.
Okay. Qui nourrissent ta danse, en fait,
complètement.
Finalement.
Même si ma mère m'aidait, me soutenait psychologiquement, je n'ai pas, comment dire, c'est pas mes parents qui m'ont payé mon appartement à Paris.
Ton père ne t'a pas forcément soutenue dans cette envie de faire de la danse ou...
Non, pas du tout. Du coup, on est hors cliché. Mais mon père, non, même s'il était marocain, il était... pas intégriste. Et il était très fier du fait que je sois danseuse. Comment dire, j'ai perdu mes parents, moi, un peu trop tôt. Mmh. Et du coup, mon père était un peu moins disponible parce que plus malade.
D'accord.
Et voilà. Et du coup, c'est ma mère qui, les femmes qui tiennent un peu tout et qui tenaient les enfants. Et qui
tout le monde, quoi.
Tout le monde. Ouais. Je suis jamais partie en me disant c'est compliqué. Pour moi, même si je devais dormir dans 3 mètres carrés avec 3 sacs de linge sale, j'étais en plein bonheur. Donc, j'ai toujours été déterminée dans mon choix d'être danseuse. Et du coup, voilà, je pense que je suis allée là où je devais aller, en fait. Je suis assez fataliste. Je me dis, bon, il y a des auditions où je n'ai pas été prise. Je regrette de ne pas avoir rencontré Pina Bausch. C'est mon seul regret.
En 2006, elle intègre une compagnie de danse, la Baraka. Cela marquera un réel tournant dans sa vie. Elle y fait la rencontre d'Abou Lagra, annonéen d'origine, mais aussi et surtout danseur, chorégraphe et directeur artistique de la Baraka. Depuis 12 ans, ils forment un duo très complémentaire, à la vie comme à la scène. Est-ce que c'est facile d'être deux artistes au sein d'un même couple et comment vous préservez-vous entre votre vie artistique et votre vie privée ?
Alors, se préserver, c'est un truc que je ne sais pas encore faire, se protéger, tout ça, mais ça, je pense que ça prend du temps. Je pensais qu'à 40 ans, ce serait réglé, mais ce n'est pas réglé. Donc, je vois passer un avis d'audition. Tous les lundis, sur un site, il y a les auditions du mois qui apparaissent. Donc, tous les lundis matin, j'étais sur ce site. Et je vois la compagnie Abou Lagra, que je ne connaissais pas du tout, très honnêtement. Et j'avais vu un reportage sur France 3 la semaine d'avant, où je vois un petit bonhomme à l'Opéra de Paris, avec sa mère algérienne derrière, son père derrière, en train de dire « je suis très fière d'être à l'opéra, blabla ». Et on voit parler sa mère qui dit pareil qu'elle est très fière. J'étais assez émue de voir ces images et surtout très fière de me dire que il y avait quand même enfin quelqu'un d'une couleur différente, d'une communauté différente, donc un maghrébin qui mettait un pied à l'Opéra de Paris pour faire une pièce. Et donc quand j'ai vu la vidéo d'audition et que j'ai compris que c'était le même. Donc je me suis dit, je vais y aller. Tout le monde m'a dissuadée en me disant, laisse tomber, prends que des filles qui ont fait le conservatoire. Moi, j'ai fait aucune grande école, aucune institution. Et j'y suis allée quand même sans le dire à personne. Parce que je me suis dit, après tout, voilà, j'ai peut-être ma chance. Et on était 750, ils cherchaient 5 danseuses. Et ça a été un coup de foudre. Vraiment, mais à tous les niveaux, un coup de foudre artistique. J'ai tout aimé de ses propositions, j'ai aimé sa personnalité, j'ai aimé sa danse, j'ai aimé toutes les musiques qu'il mettait, j'ai aimé sa gestuelle, j'ai aimé tout. Et je crois que lui, ça a été la même chose. Vraiment, ça a été un coup de foudre en direct, au milieu de 750 personnes. Bon, voilà, j'ai été prise à ma plus grande surprise. Et là, ma vie a basculé parce qu'enfin, je rentrais dans un milieu professionnel où j'allais pouvoir travailler de manière durable. Parce que c'est vrai que je faisais des contrats 2 mois, 3 mois ou 4 mois, puis ça s'arrêtait. Du coup, ce système d'intermittence, il est super, mais en même temps, on est tous pareils, quoi. Quand on bosse pas, on sait pas quoi faire. Donc, moi, j'étais là pour travailler, j'aime le travail. Et donc, du coup, là, je me suis dit, ben voilà, je vais pouvoir enfin travailler sur 1 année, 2 années, 3 années. Et c'est ce qui s'est passé. Et puis, en plus de ça, on est tombés amoureux. Mais vraiment, ça ne nous a pas arrangés parce qu'on n'était pas dans une situation confortable. Et puis, voilà. Et puis, depuis 2006, on développe des choses ensemble parce qu'on a des valeurs, je pense, communes aussi. Voilà. Mais une rencontre, là, pour le coup, presque mystique, quoi. Même si c'est moi qui fais sur certains projets, pas tous évidemment, mais énormément, on va dire 70%, c'est Abou qui va être sur le devant de la scène. Et donc ça n'a pas toujours été simple pour moi, parce que du coup, en tant que personne et en tant qu'artiste, j'ai l'impression d'être parfois transparente et que mon travail n'est pas reconnu. Donc c'est les limites, voilà. C'est pour ça que la question se pose maintenant un petit peu différemment à 40 ans, mais heureusement, on peut s'en parler. Tous les deux, et lui, il voit très bien les limites et que je suis toujours un petit peu sur le côté. Donc, il a essayé, il parle souvent de moi, d'ailleurs.
Il ne lui pas, je vois dans les interviews, de rappeler avec Nawal.
Voilà.
En arrivant à Nonnet, ce n'est pas une peur aussi que tu as eue, parce que comme il est originaire, il a une image forte ici.
Moi, je suis assez naïve et puis je ne prémédite pas les choses. C'est plutôt maintenant que je m'en rends compte. Ce n'est pas que je n'existe pas, parce que j'existe à travers le travail que je fais et en direct avec les gens avec qui je travaille. Mais après, pas vraiment, quoi. Je suis toujours dans l'ombre et je déteste cette phrase derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme. Je ne sais pas pourquoi il faut être derrière. Et puis en plus, nous, en termes de parité, on est quand même assez on est très, très égaux et très, très équitables dans le partage des choses. Abou, il ne veut pas cette situation, mais c'est parfois les gens qui.
Il l'a subi, quoi.
Oui, il l'a subi comme moi, en fait. Ils vont plus vite, ils font des raccourcis, et puis voilà, bon, c'est pas grave, on l'a oublié. Donc il est obligé de dire non, mais c'est Nawal qui a fait ci. C'est un peu. Voilà, mais bon.
À celle qu'on voit apparaître une seconde à sa fenêtre. Et qui preste.
En 2009, lors de la cérémonie de clôture du festival panafricain à Alger, tu as une révélation et tu décides de mettre ton énergie débordante dans la formation de jeunes danseurs algériens. Abou et toi menez un projet de pont culturel méditerranéen et vous créez le ballet contemporain d'Alger. Quelle était la vocation de ce ballet ?
L'émancipation, faire naître le métier de danseur en Algérie. Défendre des droits d'artistes, essayer de border aussi une certaine carrière, d'expliquer que la danse, c'était du travail. On était en lien avec la ministre, donc peut-être mettre en place aussi, à travers les conservatoires, l'ancien ballet qui s'appelait le Ballet National, de reparler de la carrière du danseur, de salaire, d'essayer de respecter ce métier pour ce qu'il était dans un pays qui est toujours et qui était un petit peu... c'est pas à la dérive, mais le monde artistique, bon voilà, c'est un peu le dernier...
La dernière roue du carrosse.
Exactement,
quoi.
Merci. Au départ, on voulait qu'il y ait des hommes et des femmes, mais on s'est aperçu que ce serait très compliqué.
D'accord.
Moi, me suis battue pour qu'il y ait des femmes, mais voilà, il y en a eu au départ, et puis après, il y a eu des problèmes avec les parents, puis des problèmes avec les garçons qui étaient pris. Du coup, on a éliminé ça, en sachant que la mixité, c'était pas possible tout de suite. Mais c'était vraiment de permettre à des danseurs de voyager par la danse, de rencontrer déjà la danse, les valeurs de ce métier, sortir de leur pays et montrer les talents, parce qu'il y a beaucoup de talents cachés dans ces pays-là. Je parle d'Algérie, mais Maroc, Tunisie, enfin toute l'Afrique et tous les pays qu'on connaît un peu moins. Des talents cachés absolument merveilleux qui nous ont fait pleurer quand on les a vus comme ça, sans rien. Et on avait envie de les aider. Et d'ailleurs, ils sont tous, sur 8, il y en a 5 qui sont toujours en France et qui travaillent de manière professionnelle.
Est-ce que tu penses que ça a posé quelques pierres, on va dire, et que ça a permis à d'autres personnes qui n'étaient pas, du coup, dans ce ballet, mais de se dire, c'est possible de danser.
Je pense que ça a fait des petits, parce que il y en a un, le plus âgé, qui est retourné en Algérie et qui a monté une école et tout ça. Je pense que ça, j'en suis presque sûre. Après, est-ce que ça suffira pour défendre, parce que entre temps la ministre a changé, et puis voilà, politiquement, c'est assez compliqué. Mais faire des petits et créer du rêve et donner la force à certains de se lancer dedans, c'est sûr, ouais.
Et ce choix, du coup, de ne pas intégrer des femmes, ça a dû être peut-être quelque chose de difficile aussi pour vous, justement, qui avait accordé une importance à l'équité, à la parité.
J'ai essayé de comprendre si jamais on en intégrait une ou deux, mais j'ai vu que je pense que ça aurait mis vraiment le projet en danger. Donc on s'est dit, c'est pas grave, on réintégrera peut-être plus tard, mais on les laisse entre eux. Enfin, parce que la question du corps dans la danse, et puis du corps des femmes, et puis du rapport homme-femme, ça allait être explosif, quoi. On allait faire sauter un peu tous les verrous. Donc après, on n'est pas psy, et donc il fallait rester...
On ne pouvait pas jouer sur tous les tableaux, quoi. Non. C'était compliqué. Non.
Mais dans la svelte silhouette et si gracieuse et fluette, qu'on en demeure épanoui.
Quelques années plus tard, Abou et Nawal se lancent dans une nouvelle aventure. Installés de façon pérenne, la compagnie dans un lieu, leur permettant de travailler au quotidien leurs différents projets. Cela les mènera à Annonay, dans une chapelle désacralisée.
Et au départ, c'était de l'argent privé. On s'est dit, on va emprunter, on va prendre 200 000 euros, on va essayer de trouver un lieu, le retaper et en faire notre lieu. On est venu rencontrer M. Olivier Dussopt, qui était maire à l'époque, en avril 2014, et on lui en a parlé, mais d'un point de vue privé. Et puis ensuite, il nous a demandé si la compagnie était subventionnée. Du coup, on a donné les subventions. Et puis, on s'est rendu compte de ci, de ça, de ça. Et que ça pouvait être un projet un peu plus gros. Et que nous aussi, on avait des limites, enfin d'argent et tout. Ils nous ont fait visiter des lieux. Pas à l'abandon, mais dont ils ne savaient pas trop quoi faire. Notamment l'ancienne piscine. Mm-hmm. Une poste aussi, une vieille poste.
D'accord,
là,
ouais.
Qui était super. Et puis, à la fin, la chapelle Sainte-Marie, parce qu'elle faisait aussi partie d'un plan de rénovation du centre historique. Et du coup, ils savaient peut-être qu'ils pouvaient avoir des subventions là-dessus. Du coup, voilà. Ça a été une opportunité pour eux comme pour nous. Et quand on a ouvert la porte de la chapelle, on s'est regardé, on a dit, c'est là. Voilà. C'était un coup de foudre. On s'est dit, c'est là qu'il faut essayer de baser la compagnie. C'est un lieu magique. C'est un lieu... On a été pris d'une émotion... Et voilà, c'est plutôt ensemble qu'on a aussi commencé à penser ce projet. On l'a écrit l'été 2014. J'étais enceinte de quelques semaines. Abou avait un plâtre. Ça a été long, ça a été une bataille. Ça l'est toujours d'ailleurs, hein. C'est pas fini. Parce que même si la chapelle est là, elle est rénovée. Sur le plan du fonctionnement, il y a quelques soucis. En même temps, c'est inhérent à la création et c'est inhérent à la culture, je veux dire. Mais oui, une petite bataille de... Mais normal, en fait. Là où moi, je suis contente, c'est justement qu'Abou, avec son expérience, lui, il sait gérer tout ça. Moi, je sais faire d'autres choses, mais rentrer dans ce genre de bataille, c'est pas mon truc. Et lui, il sait très bien faire ça.
Au-delà de faire rayonner Annonay au travers de la danse en invitant des compagnies internationales à résider dans la chapelle, ce lieu a aussi pour vocation de rendre accessible cet art à tous et toutes. Nawal a donc créé deux projets, Danse avec elle et Mon corps, mon histoire.
J'aime bien utiliser la danse, pas forcément de manière, professionnelle ou de manière productive. Pour moi, la création, ça n'est pas que créer un produit qui va générer de l'argent et qui va tourner. Je pense qu'on peut créer des choses beaucoup plus simples. Enfin, la création, ça n'est pas que dans un certain format.
Et ça appartient à tout le monde, en fait.
Ça appartient à tout le monde, exactement. Et dans cette idée Danse avec elle, c'était vraiment de pouvoir aussi, là, dialoguer avec une communauté de femmes qui sont parfois isolées, dans une vie aussi pas simple, encore une fois, avec des enfants à charge, qui sont en dehors aussi des lieux de culture, qui se sentent étrangères à la culture, qui sont aussi dans une certaine mésestime, ou je sais pas si ça se dit, mais d'elles-mêmes, avec un rapport au corps complètement oublier et du coup d'essayer de redonner par le biais du corps un petit peu de valeur à la personne qu'il y a à l'intérieur, parce que pour traverser des moments difficiles, on en demande beaucoup à son psychisme, mais souvent on laisse aller son corps, et c'est plus tard qu'on se dit j'ai mal là, ça fonctionne plus. Mais souvent c'est lié aussi à l'âme qui est blessée. Et moi, je voulais essayer comme ça de donner des petites fenêtres, des petits moments de légèreté et de réparation à ces dames-là.
Et concrètement, ça se déroule comment, ces ateliers ?
Tout simplement, on avait 2 heures. Je commençais par discuter, déjà mettre à l'aise un peu tout le monde, se mettre en cercle. J'adore le cercle. Et puis après, je faisais un petit peu de yoga, un petit peu de respiration, et puis j'essayais de me mettre à l'écoute aussi de leur corps, et puis de proposer une danse. Après, de proposer de créer une chorégraphie collective où chacune propose quelque chose, et entre les propositions de tout le monde, je crée une espèce de chorégraphie. C'est très simple. Ensuite, on fait une petite remise au calme, on discute, on boit un verre, et on repart. Il y a quelque chose à la chapelle, elle est chargée. Du coup, on a l'impression que on a l'espace de libérer aussi des émotions sans que ce soit un atelier où on va appuyer sur tout. Moi, je suis pas psy, mais quand même, la danse a un pouvoir thérapeutique. Je suis pas thérapeute, mais je laisse la notion thérapeutique de la danse agir toute seule, quoi, sur les gens. On fait évoluer le projet avec les enfants. Et Abou s'occupera des enfants et moi des mamans. Et on travaillera ensemble après sur le rapport enfant-maman.
À celles qui sont déjà prises et qui vivent des heures grises près d'un être trop différent.
C'est vrai que je suis sensible à la condition de la femme, parce que j'en suis une, peut-être aussi, et puisque je vois comment facilement aussi on apprend à se taire, on est tellement éduqué dans une certaine, politesse qui va trop loin, en fait. J'essaie de me battre, après, à toute proportion gardée, mais j'ai envie d'aider, comme la danse a pu m'aider, moi, à me faire exister. J'ai envie d'aider, même si c'est périodiquement, mais par la danse, essayer de donner la parole à des gens qu'on fait trop souvent taire, en fait. Et j'avais envie de travailler avec des handicapés, parce qu'encore une fois, je me suis dit que la danse pourrait être pour eux le moyen de lisser les différences, de découvrir des capacités, plutôt que de toujours leur faire entendre qu'ils sont restreints. Eh ben, j'avais envie de leur dire que par la danse, ils pouvaient aller chercher des choses. Voilà. J'ai commencé le projet vraiment flippé, quoi. Complètement flippé, parce que au moment où ça a dû se faire, je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je connais rien du handicap. Je sais pas comment ça va se passer. Est-ce qu'ils vont, et puis j'en avais 44. Avec des handicaps complètement différents, beaucoup d'autisme, mais polyautistique, polyhandicapé, enfin, des choses hyper difficiles, quoi. À un moment donné, je me suis dit, il faut que je me documente, qu'est-ce que l'autisme, qu'est-ce que tout ça. Et en fait, il y a quelque chose en moi qui m'a dit, non, surtout pas, ne fais pas ça. Parce que là, tu vas te mettre à la place d'un thérapeute. Et moi, je voulais rester à la place d'une artiste. Donc, mon rôle est de dire, c'est possible. Même si les éducs me disaient, mais tu sais, eux, ils ont un problème d'imagination. Eh ben, c'est pas grave. Moi, je me confrontais un peu. Je me prenais des portes en disant, mais essayez d'imaginer. Et je voyais bien que ça marchait pas. Mais c'est pas grave, en fait. C'est pas le résultat qui va compter. C'est ce qu'on va vivre ensemble tout le long du chemin. C'est comment on va écrire cette histoire. Et il a fallu d'abord qu'ils m'apprivoisent, parce qu'ils sont beaucoup sur le lien.
Bien sûr.
Donc ça a pris du temps. J'ai beaucoup appris, ces enfants m'ont donné énormément d'amour, puis ils me font confiance, et puis ils sont sensibles à l'art, sensibles à la beauté. Comme ils sont ultra sensibles ou extra sensibles, eh ben, ça a eu des effets sur eux extraordinaires, quoi. L'air de rien. Heureusement que j'avais des moments où je retrouvais mon métier de danseuse à Valence, en tournée à Marseille, aux Bernardines, où je pouvais aussi exulter. Parce que l'air de rien, encore une fois, on porte, quoi. On absorbe les douleurs. Puis c'est des enfants. Moi, je suis maman depuis pas longtemps. Et on se demande pourquoi eux. Et enfin, moi, il y a eu des moments difficiles aussi pour moi. Et vis-à-vis d'eux, et en même temps, c'est pas ce qu'il en ressort, quoi. Il y a toujours de la joie, Et ce que je veux leur donner, c'est de la liberté. Donc, je pense que c'est le maître mot de ce projet, c'est liberté de corps et voilà. Nous, quand on veut produire un spectacle et tout, il faut tout maîtriser, la lumière, la danse, la musique. On est là derrière les danseurs, fait comme ci, fait comme ça. Et là, c'est complètement l'inverse parce que je n'ai pas de pouvoir. Je peux pas, j'ai pas d'emprise. Enfin, je peux pas leur dire, il faut que ce soit comme ça. Donc, je laisse faire. Ça m'a appris complètement le laisser aller et laisser faire les choses. Mmh. Quand on transmet, on se remet en question, en même temps qu'on remet en question l'autre. Et c'est comme ça qu'on grandit. Et moi, j'aime beaucoup transmettre d'une manière ou d'une autre aussi. De toute façon, quand on danse, on transmet, en fait. Mmh. On n'est pas obligé d'être dans un rapport de transmission pour transmettre, puisque quand on danse, on transmet quelque chose. Mmh.
En 2014, elle crée Les Femmes sur le devant de la scène, un projet de formation et de création en direction de jeunes talents féminins au parcours atypique et décousu de Lyon et son agglomération. Cela donnera naissance à Doyobi, une pièce dans laquelle elle s'interroge sur la place de la femme dans la société humaine.
C'est le résultat de l'Algérie, ma frustration en fait de ne pas avoir pu travailler avec des jeunes filles algériennes et qui est revenue à moi. Un peu plus tard, donc quelques années plus tard, et je me suis dit, mais en fait, moi j'habitais Lyon à l'époque, en fait, même en France, dans nos quartiers, il y a des barrières énormes pour ces jeunes filles qui voudraient être danseuses, que ce soit des barrières religieuses ou des barrières culturelles et sociales. Et du coup, je me suis dit, ben, au lieu d'aller en Algérie ou au Maroc, je vais le faire en France. Là, j'ai demandé à la compagnie La Baraka, enfin à Bouge, j'en ai parlé évidemment, d'héberger le projet, mais c'était mon projet. Donc c'est moi qui suis allée chercher mon financement, j'ai trouvé mon budget. J'étais enceinte aussi, bizarrement, c'est très drôle, cette période de grossesse, en fait, j'ai jamais été aussi active. Après avoir donné, suivi et bichonné 8 garçons pendant 5 ans, je me suis dit, mince alors, j'avais envie que des femmes, des jeunes filles profitent aussi de cette main tendue et qu'on puisse les aider elles aussi à dire, ben, j'existe, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Nous les femmes, on est éduquées à être sages. J'ai lu ce livre de Clarissa Pinkola Estes, Femme qui court avec les loups, qui a continué à m'inspirer, à me faire entendre qu'il fallait vraiment pas rester dans ce qu'on attendait de nous, quoi. Il fallait faire ce qu'on avait dans le ventre. Et pour ça, il faut parfois avoir des gens qui nous aident. Et c'est pour ça que j'ai créé ce projet. Et c'est aussi parce que j'en avais assez d'être dans l'ombre d'Abou, que j'ai dit, là, je vais faire quelque chose qui m'est personnel. De pas être celle qui est à côté et à qui on demande de temps. Enfin, même si c'est pas ça vraiment, Abou me laisse parler, mais c'est pas moi qui suis en jeu. Là, j'étais en jeu. Et en plus, j'ai rencontré des filles extraordinaires, ultra rapides. Grande maturité de compréhension, de dialogue aussi. C'était vraiment super. Je suis en contact toujours avec ces jeunes filles. Il y en a qui cartonnent, hein, qui sont chez Mourad Merzouki en résidence. C'était un projet tremplin, en fait. Je voulais que ça les aide. Après, je leur ai dit, hein, je vais pas vous faire vivre pendant des années. Moi, c'est pas ma compagnie, donc... Voilà, je pouvais pas être... Mais bon, elles ont eu leur statut, elles ont travaillé 2 ans et demi avec moi.
Ah oui. Et puis vous avez fait tourner le spectacle.
Moi, on a eu une quinzaine de dates après. Mmh. Et puis sur des gros festivals, enfin, oui, Créteil, des grosses scènes. Donc elles ont pu se servir de ça pour continuer à exister après. Et c'était un peu le but. Et là, j'étais vraiment contente, quoi, d'être allée au bout de ce truc. C'était hyper dur parce que je dansais en même temps. J'avais un solo, moi, dans cette pièce.
Comment tu les as rencontrées, ces personnes-là? Comment elles sont venues à toi? Ou est-ce que c'est toi qui est venue à elles?
En fait, j'ai commencé le projet en me rendant dans les centres sociaux autour de Lyon. J'ai rencontré pas mal d'animatrices, justement. Ensuite, j'ai rencontré certaines des danseuses qui étaient là dans les quartiers depuis des années, qui m'ont expliqué que pour elles, voilà, bah, c'était le hip-hop ou rien, parce que le hip-hop, à travers ce côté viril, ça leur permettait de ne pas se faire embêter et tout ça. et ou alors danse orientale, mais complètement, enfin voilà. Donc j'ai essayé de comprendre là où les manques et les besoins, et ensuite j'ai écrit un projet et puis j'ai fait paraître un avis d'audition, recherche danseuse sans expérience professionnelle, sans formation, et j'ai fait voilà un contre-projet puisque je choisissais que des jeunes filles qui n'avaient presque rien quoi. Et certaines me disaient, ont menti d'ailleurs, me disaient qu'elles avaient rien fait, tout ça. Puis après, en creusant, j'ai compris, donc je les ai pas prises. Mais j'ai reçu 500 candidatures.
Ah oui.
Mais de France entière, je cherchais que des Lyonnaises. J'en ai gardé 8. J'ai essayé de broder avec ce qu'elles étaient, mais c'est ce qui m'intéressait, avec leurs histoires. Donc la première pièce, moi, mon solo, elle raconte un peu mon histoire, c'est vrai. C'est l'histoire d'une femme qui est tout le temps dans un espèce de déséquilibre et qui est aussi en constante... dialogue avec cette voix de Meredith Monk qui est un peu planante et qui essaie de comprendre un petit peu les esprits. Enfin, y a-t-il quelque chose? Où sont les gens qui partent? Jusqu'à la fin, arriver à remettre deux pieds au sol et retrouver tout doucement l'équilibre. Et l'histoire des filles, c'était plutôt en partant d'elles, mais je leur donnais ce petit côté sauvage. C'était mon mot maître. Je voulais que ça soit sauvage et je voulais qu'on se dise, mais putain, elles ont des couilles, ces filles, ou alors...
Après, elles ont des ovaires.
Elles ont des ovaires, voilà, c'était ça. Mais d'arrêter d'être aussi dans la séduction. Je voulais surtout pas des filles qui sont dans un rapport de séduction, avec une jolie danse et des jolis regards. Je voulais que ça envoie, que ça bastonne, qu'elles se déchirent, et qu'elles soient toutes à l'opposé de ce qu'elles savent faire. Et du coup, elles ont compris, elles se sont données. C'était vraiment... C'est vrai que pour elles, c'était ultra physique. Mais elles ont adoré, quoi. Quand j'en reparle avec elles, elles me disent, mais nous, on aimerait tellement être poussées comme ça tout le temps. Je les poussais. Mais c'était vraiment ça, le maître mot, dépasser nos limites, arrêter d'être gentille et dans le cadre. Je leur donnais l'autorisation de crier quoi, avec leur corps. J'avais envie que leur corps crie. Voilà, c'était ça.
Tu disais dans une interview qu'elles exprimaient leur part masculine. Ouais.
Complètement.
C'était intéressant, je trouve.
Oui, merci. J'ai oublié tout ça, mais c'est ça aussi, sur le féminin. Parce que c'est ce que dit le concept de l'individuation. C'est un truc en psychanalyse, mais qui explique qu'un être s'accomplit quand il a son côté féminin et masculin. Mais on en parle beaucoup chez l'homme, mais chez la femme, encore une fois, bon, on va se dire, c'est pas la peine. Et du coup, c'est ça que je voulais révéler aussi, ce côté brut, masculin, quelqu'un dans l'action. C'était extrêmement enrichissant. C'est bien de faire les choses par soi-même. Et c'est pour ça que je pense que c'est pas terminé.
Pourquoi en êtes-tu venu finalement plutôt tardivement à la chorégraphie, enfin à la création de ta propre pièce
En fait, je pense que je me suis laissée embarquer par ma vie avec Abou. Du coup, comme avec lui depuis 2006, lui il a des projets tous les deux mois et tout, et souvent il avait besoin de moi en tant qu'assistante. Du coup, je m'étais pas posé la question. Et donc parce que le boulot est là, Nawel, j'ai besoin de toi, ok, j'arrive. Puis j'aime bien être assistante pour Abou, je trouve que c'est encore une autre place, mais qui est hyper intéressante parce que là, pour le coup, on est disponible, il faut être disponible et pour le chorégraphe et pour les danseurs, mais il faut savoir s'oublier, ça je sais bien faire, comme toutes les femmes. Et du coup, non, mais on est un espèce de passe-droit comme ça, et ça m'a beaucoup appris aussi. Donc du coup, c'est vrai que si j'avais pas rencontré Abou, je pense que je me serais mis à la chorégraphie beaucoup, beaucoup plus tôt. J'aurais créé des choses par moi-même beaucoup plus tôt. Mais en le rencontrant, voilà, c'est toujours la part d'ombre et de lumière. À la fois, ça m'a fait grandir et travailler et tout ça. Et à la fois, d'un point de vue personnel, je me suis sûrement mis un petit peu de côté. Et c'est en étant enceinte que ça m'a explosé à la tête. Et je me suis dit, mais d'abord, je fais le choix des fois de pas danser dans les pièces d'Abou. Enfin, heureusement, j'ai ce choix-là. Je suis pas la femme qui danse dans toutes ces pièces. Mmh. Ça, c'est l'enfer pour moi. Mmh. Puis lui aussi, il a des fois pas envie de me faire danser. Donc, et là, j'avais pas du tout envie. Et je lui ai dit, là, je vais faire mon projet. Et lui, il m'a complètement encouragée. C'était pas du tout un problème pour lui. Bien au contraire, il était hyper fier. J'aimerais que la vie fasse 200 ans pour avoir un peu plus de temps de porter d'autres projets. Mais en même temps, c'est vrai qu'il faut agir aussi. Moi, je suis très dans l'évanescence, la réflexion et tout. Et heureusement qu'il est là aussi souvent pour me dire, bon, allez, maintenant, il faut agir. Sinon, je prendrai beaucoup de temps.
À la campagne de voyage, dont les yeux, charmants paysages, font paraître court le chemin.
Mon rapport au corps, en fait, ce que je dis aux autres, je le fais pas toujours pour moi. Mais non, c'est vrai que j'ai beaucoup pratiqué le yoga et que la rencontre du yoga, ça a été une révélation. Puis c'était une époque aussi où j'avais arrêté de fumer. Quand on commence la pratique du yoga, honnêtement, moi, au début, c'était de la drogue. Hein. Je pouvais plus m'en passer. J'aime beaucoup cette connexion au mental et au corps, au physique et au mental, et que le yoga, c'est vraiment la pratique qui parle de ça de manière très intelligente, qui nous connecte à notre esprit. Effectivement, la grossesse, la vie de maman, on le met trop facilement de côté, en fait, et on se dit, j'ai pas le temps, demain, voilà. Il faut que je retrouve une certaine régularité. Après, c'est des moments, comme je disais tout à l'heure, où on est en production, et là, on danse 6 heures par jour, 40 ans, ça commence à faire mal, surtout quand on s'entretient pas. Donc il faut trouver un moment pour
soi. Tu te recentres sur toi. Voilà.
Chères images aperçues, espérance d'un jour déçu, vous serez dans l'oubli demain.
Lorsque tu ne danses pas, en fait, qu'est-ce que tu fais ?
Je cuisine. Mmh. J'adore la cuisine. J'adore la cuisine marocaine, j'adore la cuisine thaïlandaise. Je jardine, ça c'est nouveau. J'écoute beaucoup de musique. Je prône aussi le rien faire. Alors ça, c'est un héritage paternel qui me disait « Oh, tu sais, ma fille, c'est très difficile de ne rien faire. » Il avait pas tort, en fait, parce que souvent, quand on fait rien, il y a plein de trucs qui arrivent dans la tête. Et j'apprends à ma fille à s'ennuyer. Parce que je pense que c'est là où on est créatif. Donc des fois, autant Abou va être tout le temps en train d'agir et de faire des trucs. Et moi, je peux rester une après-midi à regarder le ciel et à ne rien faire. Et c'est comme ça que je me régénère, en fait. Et j'ai l'impression que c'est une méditation, mais sans le vouloir, sans être dans la volonté de méditer, mais ne rien faire, quoi.
Mais si l'on a manqué sa vie, on songe avec un peu d'envie à tous ces bonheurs entrevus.
Donc quand on est jeune maman et qu'on a un mari qui est très pris et qui bouge dans tous les sens, quand on est en ville, on n'est pas vraiment isolé. Parce qu'on part en poussette, on a accès à plein de trucs, il y a du pain, il y a du machin, il y a des espaces d'olto, il y a plein de choses. Donc du coup, même si on travaille moins, on n'est pas isolé. Moi, quand je suis arrivée à Nonée avec ma petite Louisa qui devait avoir un an et quelques, et que j'avais pas de mode de garde en plus, que j'ai mis du temps à trouver, je me suis sentie un peu isolée. Et puis ce principe de prendre la voiture pour tout, je ne connaissais pas. Donc avec un bébé, enfin c'est compliqué. Il faut tout le temps la mettre, l'attacher, le machin et tout. Je me disais, ça va être compliqué. Puis la chapelle a mis du temps à éclore. Du coup, on devait rentrer en juillet 17, puis octobre 17, puis novembre 17, puis finalement février 18. Donc c'est vrai que moi, j'étais venue sur Annonay d'abord pour travailler dans cette chapelle. Et le fait qu'on n'y travaille pas encore, je manquais de matière. Pour apprécier cette nouvelle vie à Annonay, c'est pas Annonay en fait, c'est parce qu'Annonay, je trouve ça hyper charmant, et surtout c'est vrai dans ces moments là où il fait beau, et puis quand je rentre à Lyon, je me dis oh là là, qu'est-ce que c'est agressif, c'est hyper agressif, on se fait crier dessus pour rien. Donc là la vie elle commence pour moi, elle commence en fait sur Annonay. Ma fille est bientôt scolarisée, les choses sont posées, la chapelle est ouverte, ça y est, donc je vais commencer à pouvoir avoir des amis aussi. C'est beaucoup. Moi, toutes mes amies étaient à Lyon. Pouvoir créer mes propres trucs à la chapelle, c'est un tout, en fait. Il faut prendre le temps de savoir où on met les pieds, de savoir comment les gens fonctionnent, et puis de faire bien son travail, déjà aussi, là où on est engagé. Et après, laisser le temps au temps.
Merci Nawal pour ta confiance et de nous avoir livré avec beaucoup de sincérité ton parcours. Merci à vous pour votre écoute. Si vous aimez le Café Simone, alors parlez-en autour de vous, partagez-le sur vos réseaux sociaux, offrez-lui des étoiles sur iTunes, cela lui donnera plus de visibilité. Cet été, Café Simone part en vadrouille pour remplir ses bagages de nouveaux portraits de femmes inspirantes. Retrouvez toutes les références de cet épisode sur www.cafésimone.fr.